From the conference center at Temple Square.
Depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi matin de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs ont été choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Ehring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Au début de cette session, nous aimerions évoquer la disparition du président Packer, de frère Perry et de frère Scott du Collège des Douze Apôtres. Ils nous manquent. Chacun de ces frères a consacré sa vie au service du Seigneur et continue sans nul doute d'être engagé dans cette œuvre de l'autre côté du voile. Nous exprimons notre amour et nos sincères condoléances aux familles Packer, Perry et Scott. Vous êtes dans nos prières. Ce matin, nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assisteront à cette conférence et exprimons aussi notre reconnaissance envers tous les membres et amis de l'Église du monde entier qui participent à cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, avec Clay Christensen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Saint en avant, armé de foi en Christ » et interprétera à présent « Version cité promise ». Marie Durham, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire, fera ensuite la prière d'ouverture, après laquelle le chœur chantera « Je sais que mon Sauveur m'aime.
Oh. Notre cher Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants d'être réunis aujourd'hui, partout dans le monde, en nous efforçant d'être de vrais disciples de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui nous montre le chemin, la vérité. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir un prophète, Thomas S. Monson. Nous prions de tout notre pour que notre cœur et notre esprit soient ouverts au Saint-Esprit qui enseigne toutes choses que nous devons savoir et faire. Nous prions pour que nous puissions être un pour vivre l'Évangile de Jésus-Christ partout dans le monde, pour que nous puissions tous recevoir les ordonnances et les alliances qui nous permettront de retourner auprès de toi. Nous disons ces choses humblement au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous aurons maintenant le plaisir d'écouter Dieter Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. Il sera suivi par Russell Ballard, du Collège des Douze Apôtres. Richard Mainz, de la présidence des 70, prendra ensuite la parole.
My beloved brothers and sisters, my dear
mes frères et sœurs bien-aimés, mes chers amis, quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. La vue de trois fauteuils vides ici sur l'estrade nous attriste. Frère Packer, Frère Perry et Frère Scott nous manquent. Nous les aimons et nous prions pour le bien-être de leur famille. Au cours de ce week-end de conférence, nous aurons l'honneur de soutenir les frères que le Seigneur a appelés à prendre leur place au Collège des Douze Apôtres. Vos prières en leur faveur les fortifieront quand ils endosseront le manteau sacré de l'apostolat. Récemment, j'ai vu une citation qui m'a fait réfléchir. Elle disait ceci. Dites à un homme qu'il y a des milliards d'étoiles dans l'univers et il vous croira. Dites-lui qu'il y a de la peinture fraîche sur le mur et il le touchera pour s'en assurer. Ne sommes-nous pas tous un peu comme cela? Après une intervention médicale récente, mes médecins très compétents m'ont expliqué ce que je devais faire pour guérir correctement. Mais j'ai d'abord dû réapprendre quelque chose me concernant que j'aurais déjà dû savoir. Comme patient, je ne suis pas très patient. Par conséquent, j'ai décidé d'accélérer le processus de guérison en entreprenant ma propre recherche sur l'Internet. Je suppose que je m'attendais à découvrir une vérité que mes médecins ignoraient ou avaient essayé de me cacher. Il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte du paradoxe de ce que je faisais. Bien sûr, il n'est pas mauvais de faire des recherches par nous-mêmes, mais je négligeais la vérité à laquelle je pouvais me fier. Et me suis alors retrouvé embarqué dans les promesses souvent farfelues de l'Internet. Parfois, la vérité peut nous sembler trop simple, évidente et trop ordinaire pour que nous apprécions pleinement sa grande valeur. Nous mettons alors de côté ce que nous avons vécu et savons être vrai, à la recherche de solutions plus mystérieuses ou compliquées. Finalement, nous pourrions découvrir que lorsque nous courons après des ombres, nous poursuivons des choses qui ont peu de substance et de valeur. En ce qui concerne la vérité spirituelle, comment pouvons-nous savoir que nous sommes sur la bonne voie? Un moyen consiste à poser les bonnes questions. Le genre de questions qui nous aident à méditer sur notre progression et à évaluer comment vont les choses pour nous. Des questions comme celle-ci. Ma vie a-t-elle un sens? Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je crois qu'il me connaît et qu'il m'aime? Est-ce que je crois qu'il entend mes prières et y répond? Suis-je vraiment heureux? Mes efforts m'aident-ils à atteindre mes objectifs spirituels et à être à la hauteur de mes valeurs les plus élevées de la vie? Les questions concernant le but de la vie ont amené de nombreuses personnes et familles partout dans le monde à rechercher la vérité. Souvent, cette recherche les a conduits à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et à l'Évangile rétabli. Je me demande si nous, membres de l'Église, aurions-nous aussi intérêt à nous demander de temps en temps, Mon expérience dans l'Église m'est-elle bénéfique? Me rapproche-t-elle du Christ? Nous apporte-t-elle à ma famille et à moi la paix et la joie promises dans les Écritures? Alma a posé des questions semblables aux membres de l'Église à Zarahemla quand il a demandé « Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur et pouvez-vous le ressentir maintenant ?» Ce questionnement peut nous aider à recentrer ou réajuster nos efforts quotidiens sur le plan divin du salut. De nombreux membres répondront volontiers que leur expérience de membre de l'Église les satisfait exceptionnellement bien. Ils témoigneront qu'en temps de pauvreté ou de prospérité, ou que les choses soient agréables ou difficiles, leur engagement envers le Seigneur et leur service dévoué dans l'Église donnent beaucoup de sens à leur vie et leur apportent beaucoup de paix et de joie. Chaque jour, je rencontre des membres de l'Église pleinement heureux qui démontrent en paroles et en actes que l'Évangile rétabli de Jésus-Christ enrichit immensément leur vie. Mais je suis aussi conscient que certaines personnes vivent une expérience moins satisfaisante, ressentent que parfois leur appartenance à l'Église n'est pas tout à fait ce qu'ils avaient espéré. Cela m'attriste, parce que je sais pertinemment combien l'Évangile peut stimuler et renouveler notre esprit, combien il peut remplir notre cœur d'espérance et notre esprit de lumière. Je sais personnellement combien les fruits de l'Évangile béni de Jésus-Christ peuvent transformer notre vie ordinaire et monotone en une vie extraordinaire et sublime. Mais pourquoi cela semble-t-il mieux opérer pour certaines personnes que pour d'autres? Quelle est la différence entre les personnes dont l'expérience dans l'Église remplit leur âme de cantiques de l'amour rédempteur et celles qui ressentent que quelque chose leur manque? En méditant sur ces questions, un déluge de pensées m'est venu à l'esprit. Aujourd'hui, je vais vous en présenter deux. Premièrement, rendons-nous notre vie de disciple trop compliquée? Ce bel évangile est si simple qu'un enfant peut le comprendre. Et cependant, il est si profond et complexe qu'il faudra une vie entière et même une éternité d'études et de découvertes pour le comprendre pleinement. Mais parfois, nous prenons le beau lys de la vérité divine et nous le revêtons de couches de bonnes idées, de programmes et d'exigences venant de l'homme. Chacune d'elles, en elle-même, peut être utile et appropriée pendant un certain temps et selon les circonstances. Mais quand elles sont empilées les unes sur les autres, elles peuvent créer une montagne de sédiments qui devient si épaisse et si lourde que nous risquons de perdre de vue la fleur précieuse que nous avons un jour tant aimée. Par conséquent, nos dirigeants devons protéger strictement la pureté et la simplicité de l'Église et de l'Évangile et éviter de placer des fardeaux inutiles sur nos membres. Et nous tous, membres, nous devons faire un effort conscient pour consacrer notre énergie et notre temps aux choses qui importent vraiment, tout en encourageant notre prochain et édifiant le royaume de Dieu. Une instructrice de la Société de Secours avait la réputation de préparer des leçons impeccables. Un jour, elle a décidé de créer une magnifique couverture piquée pour illustrer parfaitement le thème de sa leçon. Mais la vie a pris le dessus. Elle a dû aller chercher ses enfants à l'école, aider une voisine à déménager, soigner la fièvre de son mari et combler la solitude d'une amie. Le jour de la leçon approchait et la couverture n'était pas terminée. Finalement, la veille de sa leçon, elle n'a pas beaucoup dormi, ayant travaillé toute la nuit à sa couverture. Le lendemain, elle était épuisée et si difficilement capable d'organiser ses pensées, mais elle est bravement allée faire sa leçon. La couverture piquée était remarquable. Les points étaient parfaits, les couleurs éclatantes, le motif délicat. Au centre se trouvait un seul mot qui reprenait triomphalement le thème de sa leçon. Simplifier. Frères et sœurs, vivre l'Évangile n'a pas besoin d'être compliqué. C'est vraiment simple. On pourrait le décrire comme suit. Entendre la parole de Dieu avec une intention réelle nous conduit à croire en Dieu et avoir confiance en ses promesses. Plus nous faisons confiance à Dieu, plus notre cœur est rempli d'amour pour lui et pour les autres. Notre amour pour Dieu nous amène à désirer le suivre et à agir conformément à sa parole. Parce que nous aimons Dieu, nous voulons le servir. Nous voulons faire du bien aux autres et aider les pauvres et les nécessiteux. Plus nous avançons sur ce chemin des disciples, plus nous désirons apprendre la parole de Dieu. Et il en va ainsi. Chaque pas conduisant au suivant, nous remplissant de foi, d'espérance et de charité, toujours croissante. C'est magnifiquement simple. Et cela fonctionne magnifiquement. Frères et sœurs, si vous pensez que l'Évangile ne vous est pas vraiment bénéfique, je vous invite à prendre du recul, à examiner votre vie et à simplifier votre approche. Concentrez-vous sur les points de doctrine, les applications et les principes de l'Évangile fondamentaux. Je vous promets que Dieu vous guidera et vous bénira sur le chemin jusqu'à ce que vous deveniez un disciple accompli et l'Évangile vous sera vraiment plus bénéfique. Ma seconde suggestion est, commencez là où vous êtes. Parfois, nous sommes découragés parce que nous ne sommes pas plus spirituels ou respectés et intelligents, que nous ne sommes pas en meilleure santé, plus riches, amicaux, capables ou autre chose. Naturellement, il n'y a rien de mal à vouloir nous améliorer. Dieu nous a créés pour que nous croissions et progressions. Mais rappelez-vous, nos faiblesses peuvent nous aider à être humbles et nous tourner vers le Christ, qui rendra fortes les choses qui sont faibles. D'autre part, Satan utilise nos faiblesses de manière à ce que nous nous décourageons d'essayer. J'ai appris dans la vie que nous n'avons pas besoin d'être plus de quoi que ce soit pour commencer à devenir la personne que Dieu avait l'intention que nous devenions. Dieu vous prendra tel que vous êtes en ce moment même et commencera à travailler avec vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un cœur bien disposé, du désir de croire et de faire confiance au Seigneur. Gédéon se considérait comme un pauvre paysan, le plus petit de la maison de son père. Mais Dieu a vu en lui un homme fort et vaillant. Quand Samuel a choisi Saul pour être roi, celui-ci a essayé de l'en dissuader. Il était issu de l'une des plus petites tribus de la maison d'Israël. Comment pouvait-il être roi? Mais Dieu voyait en lui un homme jeune et beau. Même le grand prophète Moïse s'est senti si accablé et découragé qu'il a voulu abandonner et mourir. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Mes chers frères et sœurs, si nous nous jugeons seulement à travers nos yeux de mortels, nous ne nous considérerons peut-être pas comme suffisamment bons. Mais notre Père Céleste voit qui nous sommes vraiment et qui nous pouvons devenir. Il nous voit comme ses fils et ses filles, comme des êtres de lumière éternelle, dotés d'un potentiel infini et qui ont une destinée divine. Le sacrifice du Sauveur a ouvert la porte du salut pour que nous retournions tous à Dieu. Sa grâce suffit à tous ceux qui s'humilient devant lui. Sa grâce est le pouvoir qui nous permet d'accéder au royaume de salut de Dieu. Sa grâce nous permettra à tous de ressusciter et d'être sauvés dans un royaume de gloire. Même le moindre royaume de gloire, le royaume céleste, défie toute compréhension. Et d'innombrables personnes hériteront de ce salut. Mais la grâce du Sauveur peut faire beaucoup plus pour nous. Étant membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous aspirons à quelque chose d'inimaginablement plus grand. C'est l'exaltation dans le royaume céleste. C'est la vie éternelle dans la présence de notre Père Céleste. C'est le plus grand don de Dieu. Dans le royaume céleste, nous recevons de sa plénitude et de sa gloire. En effet, tout ce que le Père a nous sera donné. Notre but est l'exaltation. Et nous empruntons le chemin des disciples pour y parvenir. En faisant preuve d'un peu de foi et en commençant votre marche de disciple paisible de notre Seigneur Jésus-Christ, votre cœur changera. Tout votre être peut être rempli de lumière. Dieu vous aidera à faire de vous quelque chose de plus grand que ce que vous avez jamais pensé possible. Vous découvrirez que l'Évangile opère vraiment dans votre vie. Il est bénéfique. Frères et sœurs, chers amis, je prie pour que nous nous concentrions sur la simplicité qui est en Christ et permettions à sa grâce de nous élever et de nous porter pendant notre voyage de là où nous sommes jusqu'à notre destinée glorieuse en la présence de notre Père. Si nous le faisons, quand quelqu'un demandera quel bien cela vous fait-il d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours? Est-ce que ça opère pour vous? Nous serons capables de dire fièrement et avec une grande joie et humblement, ça me fait beaucoup de bien. Je vous remercie de me le demander. Voudriez-vous en savoir davantage? C'est là mon espérance, ma prière et mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Lors de la dernière conférence générale d'octobre, j'ai invité l'auditoire à suivre la recommandation de Brigham Young de rester à bord du bon vieux navire de Sion, qui est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et de se tenir fermement des deux mains. Depuis lors, je suis heureux de savoir que des membres de ma famille et d'autres personnes écoutaient et m'ont demandé « Qu'y a-t-il dans le bon vieux navire à quoi nous pouvons nous tenir ?» Je leur ai rappelé ce qu'a dit le président Young. « Nous sommes sur le bon vieux navire de Sion. Dieu est à la barre et il y restera. Il dicte, guide et dirige. Si le peuple fait totalement confiance à son Dieu, n'abandonne jamais ses alliances ni son Dieu, il nous guidera comme il faut. Il est clair que notre Père Céleste et le Seigneur Jésus-Christ ont équipé le bon vieux navire de Sion de vérités éternelles claires et simples qui nous aideront à garder le cap à travers les eaux troubles de la condition mortelle. En voici quelques-unes. L'Église de Jésus-Christ a toujours été dirigée par des prophètes et des apôtres vivants. Bien que mortels et sujets aux imperfections humaines, les serviteurs du Seigneur sont inspirés à nous aider à éviter les obstacles qui sont une menace spirituelle pour notre vie et à nous aider à franchir sain et sauf la condition mortelle pour arriver à notre destination céleste finale. Pendant près de 40 ans de proche association, j'ai été personnellement témoin de l'inspiration tranquille et des révélations profondes qui ont poussé les prophètes et les apôtres, les autorités générales et les dirigeants d'auxiliaires à l'action. Bien que n'étant ni parfaits ni infaillibles, ces femmes et ces hommes, bons, ont été parfaitement consacrés à promouvoir l'œuvre du Seigneur selon sa directive. Et ne vous y trompez pas, le Seigneur dirige son Église par l'intermédiaire des prophètes et des apôtres vivants. C'est la manière dont il a toujours accompli son œuvre. En effet, le Seigneur a dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. » Nous ne pouvons pas séparer le Christ de ses serviteurs. Sans ses premiers apôtres, nous n'aurions pas de récit fait par des témoins oculaires de beaucoup de ses enseignements, de son ministère, de ses souffrances au jardin de Gethsémané et de sa mort sur la croix. Sans leurs témoignages, nous n'aurions pas de témoignage apostolique de la tombe vide et de la résurrection. Il a commandé à ses premiers apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ce commandement a été renouvelé à notre époque quand le Seigneur a appelé Joseph Smith à rétablir l'Église avec des apôtres ordonnés pour annoncer son évangile une dernière fois avant son retour. Ce commandement, le monde a toujours eu du mal à accepter les prophètes et les apôtres vivants, mais il est essentiel de le faire pour comprendre pleinement l'expiation et les enseignements de Jésus-Christ, et pour recevoir la plénitude des bénédictions de la prêtrise qui sont données à ceux qu'il a appelés. Trop de gens pensent que les dirigeants et les membres de l'Église devraient être parfaits ou presque parfaits. Ils oublient que la grâce du Seigneur est suffisante pour accomplir son œuvre par l'intermédiaire de personnes mortelles. Nos dirigeants ont les meilleures intentions, mais parfois, nous faisons des erreurs. Cela n'est pas propre aux relations dans l'Église. La même chose se produit dans nos relations avec nos amis, nos voisins et nos collègues de travail, ainsi qu'entre conjoints et membres d'une famille. Il est assez facile de rechercher la faiblesse humaine chez les autres, mais nous faisons une grave erreur si nous remarquons seulement la nature humaine les uns des autres et ne voyons pas la main de Dieu œuvrer par l'intermédiaire des personnes qu'il a appelées. Être attentif à la façon dont le Seigneur inspire les dirigeants qu'il a choisis et pousse les saints à faire des choses remarquables et extraordinaires en dépit de leur nature humaine est une des façons dont nous nous tenons fermement à l'Évangile de Jésus-Christ et restons en sécurité à bord du bon vieux navire de Sion. Une deuxième vérité est la doctrine du plan de salut. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, Dieu a donné le livre de Mormon, les doctrines et alliances et de nombreux autres enseignements à l'Église. Ces enseignements comprennent la connaissance du plan de salut qui décrit d'où nous venons, quel est notre but ici-bas et où nous allons quand nous mourrons. Ce plan nous donne aussi la perspective éternelle unique que nous sommes les enfants d'Esprit de Dieu. En comprenant qui est notre Père Céleste, et la relation qui nous lie à lui et à son Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous accepterons leurs commandements et ferons des alliances avec eux qui nous ramèneront à leur présence éternelle. Chaque fois que je tiens un nouveau-né dans mes bras, je me demande, qui es-tu, mon petit? Que deviendras-tu grâce à l'expiation du Christ? Nous nous posons des questions du même ordre quand un être cher meurt. Où sont-ils? Que voient-ils? Que vivent-ils? La vie continue-t-elle? Quelle sera la nature des relations que nous chérissons le plus dans le merveilleux monde des esprits des morts? Dans ce monde-là, nous avons deux petites filles, Sarah et Emily, et un petit-fils, Nathan. Lors du décès de chacun de ces petits-enfants, nous nous sommes tenus fermement en famille, aux vérités de l'Évangile, dès demain. Nos questions ont reçu une réponse de réconfort et d'assurance grâce à l'expiation du Sauveur. Bien que nos petits-enfants nous manquent, nous savons qu'ils vivent et que nous les reverrons. Comme nous sommes reconnaissants de cette compréhension spirituelle dans les moments de turbulence personnelle et familiale. Une autre vérité essentielle de l'Église est que notre Père Céleste a créé Adam et Ève dans un noble but. Ils avaient la responsabilité, qui par la suite est devenue celle de leur postérité, de créer des corps mortels pour les enfants d'esprit de Dieu, pour qu'ils puissent vivre dans la condition mortelle. De cette façon, notre Père Céleste envoie ses enfants d'esprit sur terre pour qu'ils apprennent et progressent grâce aux expériences de la vie terrestre. Parce qu'il aime ses enfants, Dieu envoie des messagers célestes et des apôtres pour leur enseigner le rôle essentiel de Jésus-Christ, qui est d'être notre Sauveur. Au long des siècles, les prophètes ont accompli leur devoir en avertissant les gens des dangers qui les menaçaient. Les apôtres du Seigneur sont tenus de veiller et d'avertir et de venir en aide aux personnes qui cherchent des réponses aux questions de la vie. Il y a 20 ans, la première présidence et le Collège des 12 apôtres ont publié La Famille, Déclaration au monde. Dans ce document inspiré, nous avons conclu par ce qui suit. Nous lançons une mise en garde. Les personnes qui enfreignent les alliances de la chasteté, qui font subir des sévices à leurs conjoints ou à leurs enfants, ou qui ne s'acquittent pas de leurs responsabilités familiales, devront un jour en répondre devant Dieu. Nous faisons également cette mise en garde. La désagrégation de la famille attirera sur les gens, les collectivités et les nations, les calamités prédites par les prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui. En tant qu'apôtres, nous réaffirmons cette mise en garde solennelle aujourd'hui. Veuillez ne pas oublier que les commandements et les alliances sont des vérités et des points de doctrine de grande valeur que l'on trouve dans le bon vieux navire de Sion où Dieu est à la barre. Il y a un autre point de doctrine auquel nous devons nous attacher. C'est celui de l'observance du jour de sabbat. Cela nous aide à nous préserver des souillures du monde, nous permet de nous reposer physiquement et apporte à chacun de nous le rafraîchissement spirituel qu'apporte le fait d'adorer le Père et le Fils chaque dimanche. Quand nous nous faisons un délice du jour de sabbat, c'est un signe de notre amour pour eux. Dans le cadre de nos efforts pour faire du sabbat un délice, nous avons demandé aux dirigeants locaux et aux membres de l'Église de se souvenir que la réunion de Sainte-Seine appartient au Seigneur et doit être enracinée et ancrée dans ses enseignements. La présentation de l'ordonnance de la Sainte-Seine est le moment où nous renouvelons nos alliances et réaffirmons notre amour pour le Sauveur, et nous souvenons de son sacrifice et de son expiation. Le même esprit de culte doit imprégner nos réunions mensuelles de jeûne et de témoignage. Cette réunion de Sainte-Seine donne l'occasion aux membres d'exprimer brièvement leur reconnaissance et leur amour à l'égard de notre Père Céleste et de Jésus-Christ, et leur gratitude pour l'Évangile rétabli, et d'en rendre leur témoignage personnel. La réunion de jeûne et de témoignage est un moment conçu pour exprimer de brèves pensées inspirantes et rendre un témoignage solennel. Ce n'est pas un moment prévu pour faire un discours. Les jeunes enfants doivent s'exercer à rendre témoignage à la primaire et avec leurs parents lors des soirées familiales, jusqu'à ce qu'ils comprennent la signification importante du témoignage. L'accent mis récemment sur le fait de faire du sabbat un délice est le résultat direct de l'inspiration donnée par le Seigneur par l'intermédiaire des dirigeants de l'Église. Les membres du conseil de paroisse doivent aider l'épiscopat plusieurs semaines à l'avance en étudiant la musique et les sujets qui ont été recommandés pour chaque réunion de Sainte-Seine. Nous sommes tous bénis quand le sabbat est rempli d'amour pour le Seigneur, au foyer et à l'Église. Quand nos enfants sont instruits des voies du Seigneur, ils apprennent à ressentir son esprit et à y réagir. Tous auront le désir d'aller à l'Église chaque dimanche pour prendre la Sainte Cène, quand ils ressentiront l'esprit du Seigneur. Et tous, jeunes et vieux, qui portent de lourds fardeaux, sentiront l'encouragement et le réconfort spirituel qu'apporte un jour de sabbat consacré à méditer au sujet de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Par bonheur, le Christ est toujours proche, attendant et désireux de nous aider quand nous le prions et sommes disposés à nous repentir et à aller à lui. À présent, en méditant uniquement sur ces quelques vérités qui existe au sein du bon vieux navire de Sion. Restons à bord et souvenons-nous que, par définition, un navire est un véhicule et que le but d'un véhicule est de nous amener à une destination. La destination de notre navire, ce sont les bénédictions de l'Évangile dans leur totalité, le royaume des cieux, la gloire céleste et la présence de Dieu. Le plan de Dieu est en place. Il est à la barre et son merveilleux et puissant navire vogue vers le salut et l'exaltation. Souvenez-vous qu'on ne peut pas y parvenir en sautant du bateau et en essayant de nager seul jusque-là. L'exaltation est le but de notre voyage dans la condition mortelle. Et personne n'y parvient sans les moyens que donne l'Évangile de Jésus-Christ, son expiation, les ordonnances et la doctrine directrice qui se trouve dans l'Église. C'est l'Église dans laquelle nous apprenons les œuvres de Dieu et acceptons la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve. C'est au sein de l'Église que nous prenons les engagements et faisons les alliances des familles éternelles qui deviennent notre passeport pour l'exaltation. C'est l'Église qui est mue par la prêtrise, pour nous faire avancer à travers les eaux imprévisibles de la condition mortelle. Soyons reconnaissants pour notre beau vieux navire de Sion, car sans lui, nous partons à la dérive, seuls et impuissants, emportés sans gouvernail ni rame, tourbillonnant au gré des courants puissants du vent et des vagues de l'adversaire. Tenez-vous fermement, frères et sœurs, et naviguez dans ce navire glorieux, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et nous atteindrons notre destination éternelle. C'est mon témoignage et ma prière pour nous tous, au nom de celui dont le bon vieux navire porte le nom, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Le monde dans lequel nous vivons exerce une grande pression sur les bonnes personnes de partout pour qu'elles abaissent ou même abandonnent leurs principes de vie juste. Cependant, malgré les maux et les tentations qui nous entourent chaque jour, nous pouvons trouver et nous trouverons la vraie joie aujourd'hui en menant une vie centrée sur le Christ. En centrant notre vie sur Jésus-Christ et son Évangile, nous trouverons la stabilité et le bonheur, comme les exemples suivants le montrent. On a demandé à Tai Ishi Aoba, des 70, qui vit dans le petit village de montagne de Shikoku, au Japon, d'enseigner une leçon lors d'une conférence de jeunesse. Le thème choisi pour la conférence était « Tenez-vous en des lieux saints ». Après avoir réfléchi au thème et à ce qu'il allait enseigner, Frère Aoba a décidé d'utiliser son métier comme outil d'enseignement. Il est potier. Il raconte que les jeunes de sa classe étaient réellement fascinés quand ils ont vu comment il pouvait presque par magie transformer dans ses mains l'argile en assiette, en bol ou en tasse. Après sa démonstration, il leur a demandé qui aimerait essayer. Ils ont tous levé la main. Frère Aoba a demandé à plusieurs jeunes de s'avancer pour s'essayer à leur nouvelle passion. Il pensait, après l'avoir observé, que ce serait assez facile. Cependant, aucun d'eux n'a réussi à faire un simple bol. Ils se sont exclamés « Je n'y arrive pas. Pourquoi est-ce si dur? C'est trop difficile. » Tandis qu'il faisait ses commentaires, l'argile volait dans toute la salle. Il a demandé aux jeunes pourquoi ils avaient tant de difficultés à faire de la poterie. Ils ont donné plusieurs réponses. « Je n'ai aucune expérience. Je n'ai jamais été formé. » Ou « Je n'ai aucun talent. » À la vue du résultat, tout ce qu'ils disaient était vrai. Cependant, la raison la plus importante de leur échec était que l'argile n'était pas au centre du tour. Les jeunes pensaient qu'ils avaient placé l'argile au centre. Mais quelqu'un du métier pouvait voir que ce n'était pas exactement le centre. Frère Aoba leur a ensuite dit « Essayons de nouveau. » Cette fois-ci, il a placé l'argile exactement au centre du tour et a commencé à le faire tourner en faisant un trou au milieu de l'argile. Puis plusieurs jeunes ont réessayé. Cette fois-ci, tout le monde a commencé à applaudir en disant « Formidable, ça ne tremble pas, j'y arrive ou j'ai réussi ». Bien sûr, les formes n'étaient pas parfaites, mais le résultat était bien différent de la première tentative. La raison de leur succès était que l'argile était parfaitement au centre du tour. Le monde dans lequel nous vivons est semblable autour du potier, et la vitesse à laquelle il tourne augmente. Comme l'argile sur le tour, nous devons nous aussi être centrés. Jésus-Christ et son évangile doivent être notre point d'ancrage, le centre de notre vie. Mener une vie centrée sur le Christ signifie apprendre qui est Jésus-Christ et son évangile, puis suivre son exemple et respecter ses commandements avec exactitude. Ésaïe, le prophète d'autrefois, a déclaré « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Si notre vie est centrée sur Jésus-Christ, il peut nous façonner à l'image de ce que nous devons être, afin de retourner en sa présence et celle de notre Père dans le royaume céleste. La joie que nous connaîtrons dans cette vie sera proportionnellement liée à la manière dont nous avons centré notre vie sur les enseignements, l'exemple et le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je suis issu d'une famille de membres de l'Église depuis plusieurs générations. Les bénédictions et la joie d'avoir l'évangile de Jésus-Christ pour base de notre culture familiale ont donc été tissées dans notre vie quotidienne. Ce n'est que pendant ma mission à plein temps que j'ai compris l'incroyable impact positif qu'a la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ sur les personnes qui n'avaient pas auparavant ces bénédictions dans leur vie. Ce verset de Matthieu exprime le processus que suivent les personnes qui se convertissent à l'évangile de Jésus-Christ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Voici un exemple tiré du livre de Mormon qui montre le prix qu'un converti était prêt à payer pour recevoir la joie liée à la découverte du trésor dont Jésus parle dans la parabole du trésor caché dans le champ. Souvenez-vous que dans le livre d'Alma, au chapitre 20, Ammon et Lamoni vont à la ville de Midoni pour trouver et délivrer de prison Aaron, le frère d'Ammon. En route, ils rencontrent le père de Lamoni, qui est le roi de tous les Lamanites. Le roi est très en colère de voir son fils voyager avec Ammon, un missionnaire néphite, qu'il considère comme un ennemi. Il pense que son fils aurait dû assister à une grande fête qu'il avait organisée en l'honneur de ses fils et de son peuple. Il est si en colère qu'il commande à son fils de tuer Ammon avec son épée. Quand Lamoni refuse, le roi tire son épée pour tuer son fils pour lui avoir désobéi. Mais Amon intervient pour sauver la vie de Lamoni. Il finit par désarmer le roi et aurait même pu le tuer. Voici ce que le roi dit à Amon dans cette situation de vie ou de mort. Si tu m'épargnes, je t'accorderai tout ce que tu demanderas, même jusqu'à la moitié du royaume. Le roi était donc prêt à donner la moitié de son royaume pour sauver sa propre vie. Il a dû être surpris quand Amon ne lui a demandé que la libération de son frère Aaron et de ses compagnons, et de permettre à Lamoni de conserver son royaume. Suite à cette rencontre, Aaron, le frère d'Amon, est libéré de la prison de Midoni. Après sa libération, il reçoit l'inspiration de se rendre à l'endroit d'où le roi Lamanite règne sur tout le pays. Il est présenté au roi et a la bénédiction de lui enseigner les principes de l'évangile de Jésus-Christ, dont le grand plan de rédemption. Les enseignements d'Aaron touchent profondément le roi. La réponse du roi aux enseignements d'Aaron est rapportée au verset 15 du chapitre 22 d'Alma. Et il arriva que lorsqu'Aaron lui eut exposé ces choses, le roi dit « Que ferai-je pour avoir cette vie éternelle dont tu as parlé ?» Oui, que ferai-je afin de naître de Dieu ? Ce mauvais esprit ayant été déraciné de mon sein et de recevoir son esprit afin d'être rempli de joie, afin de ne pas être rejeté au dernier jour. Voici, dit-il, je renoncerai à tout ce que je possède. Oui, j'abandonnerai mon royaume pour recevoir cette grande joie. Étonnamment, alors qu'il allait donner la moitié de son royaume pour sauver sa vie, le roi Lamanite est maintenant prêt à donner tout son royaume pour recevoir la joie qui est donnée lorsqu'on comprend qu'on accepte et qu'on vit l'évangile de Jésus-Christ. Ma femme, Nancy, est aussi une convertie à l'Église. Elle m'a fait part à de nombreuses reprises au fil des années de la joie qu'elle connaît depuis qu'elle a découvert, qu'elle a accepté et qu'elle vit l'évangile de Jésus-Christ. Voici maintenant les paroles de Sœur Mainz au sujet de son expérience. Jeune adulte de 20 ans, j'étais arrivé à un moment de ma vie où je savais que je devais changer quelque chose pour être plus heureuse. Je me sentais à la dérive, sans but réel ni direction, et je ne savais pas où en trouver. J'avais toujours su que notre Père Céleste existait, et tout au long de ma vie, j'avais prié occasionnellement, sentant qu'il écoutait. Quand j'ai commencé ma recherche, je suis allé dans plusieurs églises différentes, mais je finissais toujours par éprouver les mêmes sentiments et le même découragement. Je m'estime grandement béni parce que j'ai finalement reçu la réponse à ma prière pour être guidé et trouver un sens à mon existence. Et la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ a fait son entrée dans ma vie. Pour la première fois, je sentais que j'avais un but et le plan du bonheur m'a apporté une vraie joie. Une autre expérience tirée du livre de Mormon illustre clairement comment le fait de mener une vie centrée sur le Christ peut nous remplir de bonheur, même au milieu d'incroyables difficultés. Après avoir quitté Jérusalem en 600 avant Jésus-Christ, le prophète Léhi et sa famille voyagent pendant près de 8 ans dans le désert jusqu'à ce qu'ils arrivent au pays qu'ils appellent Abondance, qui est près de la mer. Néphi décrit de cette manière leur vie de tribulation dans le désert. « Nous avions souffert beaucoup d'afflictions et beaucoup de difficultés, tellement que nous ne pouvons les écrire toutes. » Pendant leur séjour au pays d'abondance, le Seigneur commande à Néphi de construire le bateau dans lequel ils traverseront la mer jusqu'à la terre promise. Une fois qu'ils sont arrivés à la terre promise, il continue à y avoir de grands conflits entre les personnes qui centraient leur vie sur le Christ et les incrédules qui suivaient l'exemple de Laman et Lémuel. Finalement, le risque de violence entre les deux groupes est si grand que Néphi et les personnes qui suivent les enseignements du Seigneur s'enfuient dans le désert. À ce moment, une trentaine d'années après le départ de Léhi et de sa famille de Jérusalem, Néphi fait une déclaration bien documentée et presque étonnante en particulier après avoir raconté dans les Écritures les nombreuses afflictions et tribulations qu'ils ont souffert pendant si longtemps. Voici ce qu'il écrit. « Et il arriva que nous vécûmes heureux. » Malgré leurs difficultés, ils ont pu être heureux parce que le Christ et son Évangile étaient au centre de leur vie. Frères et sœurs, comme l'argile sur le tour du potier, notre vie doit être rigoureusement centrée sur le Christ si nous voulons trouver la vraie joie et la paix dans cette vie. Les exemples du roi Lamanite, de ma femme Nancy et du peuple de Néphi appuient tous ce principe vrai. Je rends témoignage aujourd'hui que nous pouvons, nous aussi, trouver cette paix, ce bonheur, cette joie véritable, si nous choisissons de mener une vie centrée sur le Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Au signal du directeur de la musique, l'assemblée se joindra au chœur pour chanter « Seigneur, merci pour le prophète ». Après le chant, nous entendrons Nell Marriott, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Elle sera suivie par Larry Lawrence et Francisco Vinas, des 70. Après leur discours, le chœur chantera « Precious Savior, Dear Redeemer ». Vous assistez à la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Elder Dallin H. Oakes, in April... Dallin H. Oakes, à la conférence générale d'avril, nous a parlé du besoin de réformer notre vie. Je vous suggère de commencer cette réforme par un changement de cœur, quel que soit votre vécu et votre lieu de naissance. Je viens du sud profond des États-Unis, et dans ma jeunesse, les paroles de vieux cantiques protestants m'ont enseigné ce qu'était le cœur d'un vrai disciple. C'est un cœur qui a été changé. Examinez ces paroles qui me sont si chères. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux. Tu es le potier, je suis l'argile. Façonne-moi et fais de moi selon ta volonté, pendant que j'attends, humblement et calmement. Comment les gens modernes, occupés et animés de l'esprit de compétition que nous sommes, deviennent-ils humbles et calmes? Que faire pour faire nôtre les voies du Seigneur? Je crois que nous commençons en apprenant de lui et en priant pour comprendre. À mesure que notre confiance en lui s'accroît, nous ouvrons notre cœur et cherchons à faire sa volonté, et nous attendons des réponses qui nous aideront à comprendre. Mon changement de cœur a commencé quand je me suis mise à chercher Dieu, à l'âge de 12 ans. À part réciter le Notre Père, je ne savais pas vraiment prier. Je me rappelle m'être agenouillée en espérant ressentir son amour et avoir demandé « Où es-tu, Père Céleste ?» Je sais que tu dois être quelque part dans l'univers, mais où? J'ai demandé pendant toute mon adolescence. J'entrevoyais parfois la réalité de Jésus-Christ, mais notre Père Céleste m'a laissé chercher et attendre pendant 10 ans. En 1970, quand les missionnaires m'ont enseigné le plan du salut et le sacrifice expiatoire du Sauveur, mon attente a pris fin. J'ai embrassé ces vérités et je me suis fait baptiser. Avec cette connaissance de la miséricorde et du pouvoir du Seigneur, mon mari, mes enfants et moi-même avons choisi pour devise familiale « Tout va finir par s'arranger ». Pourtant, comment pouvons-nous dire ces mots quand nous avons de graves difficultés et que les solutions ne sont pas immédiatement disponibles? Quand notre délicieuse et digne fille de 21 ans, Georgia, a été hospitalisée dans un état critique après un accident de vélo, notre famille s'est dit « Tout va finir par s'arranger ». J'ai pris immédiatement l'avion depuis notre mission au Brésil pour me rendre à Indianapolis pour être près d'elle et en me cramponnant à notre devise familiale. Néanmoins, notre charmante fille est passée dans le monde des esprits quelques heures seulement avant que l'avion atterrisse. Avec le chagrin et le choc qui parcouraient notre famille comme un courant électrique, comment pouvions-nous nous regarder et continuer à nous dire « Tout va finir par s'arranger ». Après le décès de Georgia, nos sentiments étaient à vif et nous avions du mal à l'accepter. Aujourd'hui encore, nous avons des moments de grand chagrin, mais nous nous attachons à notre conviction que personne ne meurt jamais pour de bon. Malgré l'intensité de notre douleur, quand le corps physique de Georgia s'est arrêté de fonctionner, nous avions la foi qu'elle continuait à vivre en tant qu'esprit, et nous croyons que nous vivons avec elle éternellement si nous respectons nos alliances. La foi en notre Rédempteur et en sa résurrection, la foi dans son pouvoir de la prêtrise et la foi dans les scellements éternels nous amènent à formuler notre devise avec conviction. Gordon B. Hinckley a dit « Si vous faites de votre mieux, tout finira par s'arranger. Placez votre confiance en Dieu. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. » Notre devise familiale ne dit pas que tout va s'arranger sur le champ. Elle exprime notre espoir en une issue éternelle, pas nécessairement en des résultats actuels. Les Écritures nous disent « Cherchez diligemment, priez toujours et croyez, et tout marchera pour votre bien. » Cela ne dit pas « Tout va bien », mais que pour les doux et les fidèles, le positif et le négatif marchent ensemble pour notre bien, et le Seigneur décide du temps et de l'heure. Nous espérons en lui. Parfois, comme Job, dans sa souffrance, sachant que Dieu fait la plaie et qu'il la bande, qu'il blesse et que sa main guérit, un cœur doux accepte l'épreuve et attend la venue de la guérison et de la restauration. Quand nous nous soumettons à l'Esprit, nous apprenons les voies de Dieu et nous comprenons sa volonté. J'ai découvert que pendant la Sainte Cène, que j'appelle le cœur du sabbat, après avoir prié pour le pardon des péchés, il est instructif de demander à notre Père Céleste, « Père, y en a-t-il plus ?» Quand nous sommes humbles et calmes, notre esprit peut être orienté vers quelque chose d'autre que nous avons besoin de changer. Une chose qui limite notre capacité de recevoir des directives spirituelles, ou même la guérison, ou de l'aide. Par exemple, il se peut que j'éprouve une rancœur bien cachée envers quelqu'un. Quand je demande s'il y a autre chose à confesser, ce secret surgit clairement dans ma mémoire. En substance, le Saint-Esprit murmure, « Tu demandes honnêtement s'il y a autre chose ?» Et le voici. Ta rancœur freine ta progression et nuit à ta capacité d'avoir des relations saines. Tu peux t'en débarrasser. Ah, c'est difficile. Nous estimons peut-être que notre animosité est justifiée, mais la soumission à la loi du Seigneur est la seule façon d'atteindre le bonheur durable. Avec le temps et graduellement, nous recevons gracieusement sa force et ses directives, ce qui nous mène peut-être à aller plus souvent au temple ou à étudier plus profondément le sacrifice expiatoire du Sauveur, ou à demander conseil à un ami, un évêque, un psychothérapeute ou même un médecin. Notre cœur commence à guérir quand nous nous soumettons à Dieu et que nous l'adorons. La véritable adoration commence quand notre cœur est sincère devant le Père et le Fils. Dans quel état se trouve notre cœur aujourd'hui? Paradoxalement, pour avoir un cœur guéri et fidèle, nous devons d'abord lui permettre de se briser devant le Seigneur. « Et vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit », déclare le Seigneur. Le résultat du sacrifice de notre cœur ou de notre volonté au Seigneur est que nous recevons les directives spirituelles dont nous avons besoin. Avec une compréhension croissante de la grâce et de la miséricorde du Seigneur, nous découvrons que notre cœur obstiné se fissure et se brise avec gratitude. Alors nous nous tournons vers lui, aspirant à prendre le joug du Fils unique de Dieu dans la chair. Quand nous tournons notre cœur brisé vers lui et que nous prenons son joug, nous recevons une espérance nouvelle et d'autres directives par l'intermédiaire du Saint-Esprit. J'ai mené un combat pour bannir le désir mortel de faire les choses à ma façon, pour comprendre finalement que ma façon est tellement déficiente, limitée et inférieure à celle de Jésus-Christ. Ses voies mènent au bonheur, dans cette vie et à la vie éternelle, dans le monde à venir. Pouvons-nous aimer Jésus-Christ et ses voies davantage que nous nous aimons nous-mêmes et ce que nous voulons accomplir? Certains penseront qu'ils ont échoué trop souvent et qu'ils sont trop faibles pour changer les mauvaises actions ou les désirs profanes de leur cœur. Toutefois, nous qui sommes l'Israël de l'Alliance, ne nous bornons pas à essayer tant bien que mal à nous changer nous-mêmes. Si nous supplions Dieu ardemment, il nous accepte comme nous sommes et fait de nous plus que ce que nous avons jamais imaginé. Le théologien bien connu, Robert L. Millet, a parlé d'une saine aspiration à s'améliorer, tempérée par l'assurance spirituelle que par l'intermédiaire et la grâce de Jésus-Christ, nous allons réussir. Quand nous comprenons cela, nous pouvons dire honnêtement à notre Père Céleste, « M'abandonnant à tes tendres soins, étant par toi aimé, Seigneur, suivant ton chemin, ce que tu voudras, je serai. » Quand nous offrons notre cœur brisé à Jésus-Christ, il accepte notre offrande. Il accepte à nouveau. Il nous accepte, quelles que soient les pertes, les blessures et les rejets que nous avons subis. Sa grâce et sa guérison sont plus fortes que tout. Quand nous sommes vraiment unis au Sauveur, nous pouvons dire avec confiance, tout finira par s'arranger. Au nom de Jésus-Christ, amen.
When I was a young adult, I began investigating the church.
J'ai commencé à m'intéresser à l'Église quand j'étais jeune adulte. Au début, ce sont les exemples de mes amis saints des derniers jours qui m'ont attiré vers l'Évangile. Mais ensuite, sa doctrine unique m'a séduit.
Lorsque des hommes et des femmes fidèles pouvaient continuer à progresser et finalement devenir comme leurs parents célestes, cela m'a franchement stupéfait. J'ai aimé ce concept, il m'a paru vrai. Peu après mon baptême, alors que j'étudiais le sermon sur la montagne, je me suis aperçu que Jésus enseignait cette même vérité concernant la progression éternelle dans la Bible. Il a dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Cela fait maintenant plus de 40 ans que je suis membre, et chaque fois que je lis ce verset d'Écriture, il me rappelle notre but ici sur la terre. Nous sommes venus pour apprendre et nous améliorer jusqu'à ce que nous devenions graduellement sanctifiés ou rendus parfaits en Christ. Le parcours de disciple n'est pas facile. Il a été appelé un processus d'amélioration constante. Tandis que nous avançons sur le chemin étroit et resserré, l'Esprit nous pousse continuellement à être meilleurs et à grimper plus haut. Le Saint-Esprit est un compagnon de voyage idéal. Si nous sommes humbles et disposés à apprendre, il nous prendra par la main et nous ramènera chez nous. Cependant, nous devons donc demander au Seigneur de nous guider le long du chemin. Nous devons poser des questions difficiles telles que « Qu'ai-je besoin de changer ? Comment puis-je m'améliorer ? Quelles faiblesses dois-je surmonter ?» Examinons le récit du Nouveau Testament concernant le jeune homme riche. C'était un jeune homme juste qui obéissait déjà aux 10 commandements, mais qui voulait s'améliorer. Son objectif était la vie éternelle. Quand il a rencontré le Sauveur, il a demandé « Que me manque-t-il encore ?» Jésus a répondu immédiatement par un conseil spécialement destiné au jeune homme riche. Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Puis viens et suis-moi. » Le jeune homme a été stupéfait. Il n'avait jamais envisagé un tel sacrifice. Il était suffisamment humble pour demander au Seigneur, mais pas assez fidèle pour suivre le conseil divin qu'il a reçu. Nous devons être disposés à agir quand nous recevons une réponse. Harold Billy a enseigné, si nous voulons devenir parfaits, si nous voulons atteindre la perfection, nous devons tous un jour nous poser cette question. Que me manque-t-il encore? J'ai connu une mère fidèle qui s'est humiliée et a demandé, qu'est-ce qui m'empêche de progresser? Dans son cas, la réponse de l'Esprit est venue immédiatement. Arrête de te plaindre. Cette réponse l'a surprise. Elle n'avait jamais pensé être quelqu'un qui se plaint. Cependant, le message du Saint-Esprit était très clair. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, elle a pris conscience de son habitude de se plaindre. Reconnaissante de l'incitation à s'améliorer, elle a décidé de compter ses bénédictions au lieu de ses difficultés. Quelques jours plus tard, elle a ressenti l'approbation chaleureuse de l'Esprit. Un jeune homme humble, qui ne semblait pas pouvoir trouver la bonne jeune fille à fréquenter, a demandé l'aide du Seigneur. Il a demandé « Qu'est-ce qui m'empêche d'être un homme qui convient ?» Cette réponse lui est venue à l'Esprit dans le cœur. « Purifie ton langage. » À ce moment, il s'est rendu compte que plusieurs expressions grossières faisaient partie de son vocabulaire et il s'est engagé à changer. Une sœur seule a courageusement posé la question « Que dois-je changer ?» Et l'Esprit lui a murmuré « N'interromps pas les gens quand ils parlent. » Le Saint-Esprit donne vraiment des conseils personnalisés. C'est un compagnon complètement honnête qui nous dira des choses que personne d'autre ne sait ou n'a le courage de dire. Un ancien missionnaire avait un emploi du temps très chargé qui le stressait. Il essayait de trouver du temps pour son travail, ses études, sa famille et son appel dans l'Église. Il a demandé conseil au Seigneur. « Comment puis-je me sentir en paix avec tout ce que je dois faire ?» La réponse n'a pas été celle qu'il attendait. Il a reçu le sentiment qu'il devait observer plus soigneusement le jour du sabbat et le sanctifier. Il a décidé de consacrer le dimanche au service de Dieu, de laisser de côté ses cours ce jour-là et d'étudier l'Évangile à la place. Ce petit ajustement lui a apporté la paix et l'équilibre qu'il recherchait. Il y a des années, dans un magazine, j'ai lu l'histoire d'une jeune fille qui vivait loin de chez elle et allait à l'université. Elle avait du retard dans ses études. Sa vie sociale n'était pas ce qu'elle avait espéré. Et elle était le plus souvent malheureuse. Finalement, un jour, elle s'est mise à genoux et s'est exclamée « Que puis-je faire pour améliorer ma vie ?» Le Saint-Esprit a murmuré « Lève-toi et nettoie ta chambre. » L'inspiration l'a complètement surprise. mais c'était l'incitatif dont elle avait besoin. Après avoir pris le temps d'organiser, de ranger, elle a senti le Saint-Esprit emplir sa chambre et alléger son cœur. Le Saint-Esprit ne nous dit pas de tout améliorer tout de suite. S'il le faisait, nous serions découragés et nous abandonnerions. Le Saint-Esprit opère avec nous à notre vitesse, une étape à la fois, ou comme le Seigneur l'a enseigné, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Il a ajouté, « Et bénis sont ceux qui écoutent mes préceptes, car à celui qui reçoit, je donnerai davantage. » Par exemple, si le Saint-Esprit vous a incité à dire merci plus souvent, et que vous répondez à cette inspiration, il peut ressentir qu'il est temps que vous passiez à quelque chose de plus difficile, comme apprendre à dire « Je suis désolé, c'était de ma faute. » Le moment idéal pour demander « Que me manque-t-il encore ?» est quand nous prenons la Sainte Cène. L'apôtre Paul a enseigné que c'est le moment où chacun de nous doit s'examiner. Dans cette atmosphère de révérence, quand nos pensées sont tournées vers les cieux, le Seigneur peut doucement nous dire sur quoi nous devons travailler maintenant. Comme vous, au cours des années, j'ai reçu de nombreux messages de l'Esprit qui me montraient comment je pouvais m'améliorer. Je vais vous donner quelques exemples personnels de messages que j'ai pris à cœur. Voici certains de ces murmures. N'élève pas la voix. Organise-toi, dresse chaque jour la liste des choses à faire. Prends mieux soin de ton corps en mangeant plus de fruits et de légumes. Va plus souvent au temple. Prends le temps de méditer avant de prier. Demande conseil à ta femme. Sois patient quand tu conduis. Ne dépasse pas la limite de vitesse. Je continue à y travailler. C'est l'expiation qui rend possible la perfection ou la sanctification. Nous ne pourrions jamais le faire seuls, mais la grâce de Dieu suffit pour nous aider. David Bednar l'a fait observer un jour. La plupart d'entre nous comprennent clairement que l'expiation est pour les pécheurs. Cependant, je ne suis pas sûr que nous sachions et comprenions que l'expiation est aussi pour les saints, pour les hommes et les femmes vertueux qui sont obéissants, dignes et consciencieux et qui s'efforcent de devenir meilleurs. Je suggère à chacun de vous de participer bientôt à un exercice spirituel, peut-être même ce soir, pendant que vous priez. Posez humblement au Seigneur la question suivante. Qu'est-ce qui m'empêche de progresser? En d'autres termes, que me manque-t-il encore? Puis attendez calmement la réponse. Si vous êtes sincère, la réponse deviendra bientôt claire. Ce sera une révélation qui n'est destinée qu'à vous. L'Esprit vous dira peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un. Ou bien vous recevrez peut-être le message d'être plus sélectif quant au film que vous regardez ou à la musique que vous écoutez. Vous pouvez recevoir l'inspiration d'être plus honnête dans vos transactions d'affaires ou plus généreux dans vos offrandes de jeûne. Les possibilités sont infinies. L'Esprit peut nous montrer nos faiblesses, mais il est aussi capable de nous montrer nos points forts. Parfois, nous devons demander ce que nous faisons de bien afin que le Seigneur puisse nous élever et nous encourager. Lorsque nous lisons notre bénédiction patriarcale, elle nous rappelle que notre Père Céleste connaît notre potentiel divin. Il se réjouit chaque fois que nous faisons un pas en avant. Pour lui, la direction dans laquelle nous allons est toujours plus importante que notre rythme. Frères et sœurs, soyez persévérants et ne vous découragez jamais. Il nous faudra aller au-delà du tombeau avant d'atteindre effectivement la perfection. Mais ici, dans la condition mortelle, nous pouvons en poser les fondements. Notre devoir est d'être meilleur aujourd'hui qu'hier et meilleur demain qu'aujourd'hui. Si la progression spirituelle n'est pas une priorité dans notre vie, si nous ne sommes pas engagés dans un processus d'amélioration constante, nous passerons à côté des expériences importantes que Dieu veut nous donner. Il y a des années, j'ai lu ces paroles de Spencer W. Kimball qui ont eu une influence durable sur moi. Il a dit, « J'ai appris que lorsque nous prions de tout notre cœur, lorsque nous avons soif de droiture, lorsque nous abandonnons nos péchés et que nous obéissons aux commandements de Dieu, le Seigneur déverse de plus en plus de lumière jusqu'à ce qu'elle ait enfin la force de percer le voile céleste. Une personne d'une telle droiture a la promesse inestimable qu'elle verra un jour le visage du Seigneur et qu'elle saura qu'il est. Je prie pour que nous vivions un jour cette expérience suprême en permettant au Saint-Esprit de nous ramener à notre foyer. Au nom de Jésus-Christ.
Amen.
Many of us who are meeting to participate in this conference.
Nous sommes nombreux à nous être réunis pour prendre part à cette conférence, afin d'entendre la parole agréable de Dieu, oui, la parole qui guérit l'âme blessée. Cette parole se trouve dans les Écritures et dans les messages de nos dirigeants, et elle nous apporte espoir et réconfort au milieu des ténèbres de l'affliction. À travers l'expérience de la vie, nous apprenons que la joie n'est pas pleine en ce monde, mais qu'elle l'est en Jésus-Christ. Il nous donnera de la force, de sorte que nous ne souffrirons aucune sorte d'affliction sans qu'elle soit engloutie dans sa joie. Notre cœur peut être empli d'angoisse lorsque nous voyons un proche souffrir des douleurs d'une horrible maladie. La mort d'un être cher peut laisser un grand vide dans notre âme. Lorsque certains de nos enfants s'écartent du chemin de l'Évangile, nous pouvons nous sentir coupables et douter de leur destinée éternelle. L'espoir de contracter un mariage céleste et de fonder une famille dans cette vie peut commencer à s'estomper alors que les années défilent. Des sévices infligés par les personnes qui sont censées nous aimer peuvent laisser de profondes cicatrices dans notre âme. L'infidélité d'un conjoint peut détruire une relation que nous espérions être éternelle. Ces afflictions, et bien d'autres encore inhérentes à cet état préparatoire, peuvent parfois nous amener à nous poser la même question que Joseph Smith, le prophète. « Ô Dieu, où es-tu ?» Dans ces moments difficiles de la vie, la parole agréable de Dieu qui guérit l'âme blessée apporte ce message de réconfort à notre cœur et notre esprit. Que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. La parole agréable de Dieu nous remplit d'espoir en nous apprenant que ceux qui sont fidèles dans la tribulation recevront une récompense plus grande encore dans le royaume des cieux, et que c'est après beaucoup de tribulations que viennent des bénédictions. La parole agréable de Dieu, telle qu'elle est donnée par les prophètes, nous assure que notre scellement éternel, soutenu par notre fidélité aux promesses divines données pour notre service vaillant dans la cause de la vérité, sera une source de bénédiction pour nous et pour notre postérité. Elle nous assure également qu'après avoir vécu une vie juste, nous ne perdrons en aucun cas des bénédictions pour lesquelles nous n'avons jamais eu l'occasion de faire ce qui était requis. Si nous avons mené une vie juste jusqu'à l'heure de notre mort, nous aurons toutes les bénédictions, l'exaltation et la gloire auxquelles peut accéder quiconque à cette occasion et la mise à profit. Maintenant, il est important de comprendre que de la souffrance et des afflictions peuvent aussi survenir dans notre vie lorsque nous ne nous repentons pas sincèrement de nos péchés. Marion Romney a enseigné « La plupart des souffrances et des tourments que subissent les gens dans ce monde sont le résultat de péchés qui n'ont pas fait l'objet d'un repentir et n'ont donc pas été pardonnés. De même que la souffrance et la peine accompagnent le péché, de même le bonheur et la joie accompagnent le pardon des péchés. Pourquoi l'absence de repentir engendre-t-elle souffrance et douleur? L'une des réponses possibles à cette question est qu'une punition est attachée et une loi juste est donnée qui apporte le remords de conscience. Joseph Smith, le prophète, a enseigné que nous nous condamnons nous-mêmes et que le tourment de la déception dans notre esprit est tout aussi vif qu'un étang ardent de feu et de soufre. Si nous essayons d'apaiser notre conscience en nous excusant nous-mêmes, si peu que ce soit à cause de nos péchés, ou en essayant de les cacher, nous ne parviendrons qu'à offenser l'esprit et à reporter le jour de notre repentir. Ce genre de soulagement, outre qu'il n'est que temporaire, ne nous apportera au final que davantage de souffrance et de chagrin, et réduira nos possibilités d'obtenir la rémission de nos péchés. La parole agréable de Dieu apporte aussi du réconfort et de l'espoir face à ce type de souffrance. Elle nous dit que l'on peut être soulagé des douleurs causées par les effets du péché. Ce soulagement provient du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et prend effet si nous exerçons notre foi en lui, nous repentons et sommes obéissants à ses commandements. Il est important que nous comprenions que, comme la rémission des péchés, le repentir est un processus et non pas quelque chose qui se produit à un moment en particulier. Cela demande de la constance dans chacune des étapes. Par exemple, lorsque nous prenons la Sainte Cène, nous montrons au Seigneur que nous nous souviendrons toujours de lui et que nous respecterons toujours ses commandements. Cela démontre notre intention réelle. Dès que nous commençons à nous souvenir de lui et à respecter ses commandements chaque jour, et non pas seulement le jour du sabbat, alors la rémission de nos péchés commence à se produire graduellement et la promesse qu'il nous a faite que nous aurons son esprit avec nous commence à s'accomplir. Sans l'obéissance qui doit accompagner notre intention, la rémission peut bientôt disparaître et l'esprit commencer à se retirer. Nous risquons alors d'honorer le Seigneur de la bouche et des lèvres, mais d'éloigner notre cœur de lui. En plus du réconfort qu'elle engendre, la parole agréable de Dieu nous avertit que le processus de la rémission des péchés peut être interrompu lorsque nous sommes pris au piège des vanités du monde. Mais il peut agir à nouveau en nous si nous nous repentons sincèrement et nous humilions. Quelles peuvent être ces vanités susceptibles d'interférer dans le processus de la rémission de nos péchés et qui sont liées à la sanctification du jour du sabbat? Mentionnons, par exemple, le fait d'arriver en retard à la réunion de Sainte-Cène sans raison valable, de se rendre à la Sainte-Cène sans avoir au préalable pris le temps de faire une introspection, de prendre le pain et l'eau indignement, et d'arriver sans avoir au préalable confessé nos péchés et avoir demandé à Dieu de nous les pardonner. Voici d'autres exemples. Être irrévérencieux en envoyant des messages depuis nos appareils électroniques, quitter la réunion juste après avoir pris la Sainte-Cène et prendre part dans nos foyers à des activités qui ne conviennent pas à ce jour sacré. Pourquoi donc, sachant tout cela, arrive-t-il souvent que nous ne sanctifions pas le jour du sabbat? Dans le livre d'Ésaïe, nous trouvons la réponse à cette question qui, bien que liée au sabbat, s'applique également aux autres commandements que nous devons respecter. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Les mots-clés ici sont « ne pas faire ta volonté » ou en d'autres termes, « faire la volonté de Dieu ». Bien souvent, notre volonté, façonnée par les désirs, les appétits et les passions de l'homme naturel, est en conflit avec la volonté de Dieu. Le prophète Brigham Young a enseigné « Lorsque la volonté, les passions et les sentiments d'une personne sont parfaitement soumis à Dieu et à ses exigences, cette personne est sanctifiée. Et si ma volonté est engloutie dans la volonté de Dieu, cela me guidera vers tout le bien et je serai, en fin de compte, couronné d'immortalité et de vie éternelle. » La parole agréable de Dieu nous invite à faire usage du pouvoir de l'expiation et à l'appliquer dans notre vie pour nous réconcilier avec sa volonté, et non avec la volonté du diable et de la chair, afin que par sa grâce, nous soyons sauvés. La parole agréable de Dieu que nous proclamons aujourd'hui nous montre la nécessité d'un repentir constant dans notre vie, afin que nous puissions conserver l'influence du Saint-Esprit le plus longtemps possible. Avoir la compagnie de l'Esprit fera de nous des gens meilleurs. Il distillera de la paix et de la joie en notre âme. Il ôtera la méchanceté, la haine, la querelle et toute forme de mal de notre cœur. Nous ne souhaiterons rien d'autre que faire le bien, apporter la justice et édifier le royaume de Dieu. Avec l'influence du Saint-Esprit, nous ne nous offenserons pas, pas plus que nous n'offenserons les autres. Nous nous sentirons plus heureux et notre âme sera plus pure. Notre amour pour les autres grandira. Nous serons plus enclins à pardonner et à répandre le bonheur autour de nous. Nous serons reconnaissants des progrès des autres et nous rechercherons ce qu'il y a de bon en eux. Je prie pour que nous connaissions cette joie qui provient des efforts pour mener une vie juste et que nous conservions la compagnie du Saint-Esprit grâce au repentir sincère et continu. Nous deviendrons de meilleures personnes et nos familles seront bénies. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Nous remercions le chœur du Tabernacle Mormon de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Le dernier orateur de cette session sera Quentin Cook du Collège des Douze Apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette session en chantant « Venez, venez, sans craindre le devoir ». Ensuite, Adrian Ochoa, des 70, fera la prière de clôture.
The prophet Lehi declared,
le prophète Lehi déclare, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bonheur. L'adversaire a réussi à implanter un grand mythe dans l'esprit de nombreuses personnes. Lui et ses émissaires déclarent que le véritable choix que nous avons est entre le bonheur et le plaisir maintenant, dans cette vie, et le bonheur dans une vie à venir, qui selon l'adversaire n'existe peut-être pas. Ce mythe est un faux choix, mais il est très attrayant. L'objectif noble et ultime du plan du bonheur de Dieu est d'unir les disciples justes et les familles qui ont contracté des alliances dans l'amour, l'harmonie et la paix dans cette vie, et à leur faire atteindre la gloire céleste dans les éternités avec Dieu le Père, notre Créateur, et avec son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Sauveur. Lorsque j'étais jeune missionnaire dans les îles britanniques, mon premier secteur de travail était dans ce qui était alors le district de Bristol. Un des dirigeants locaux de l'Église a souligné que les missionnaires qui œuvraient dans cette région devaient être soignés et bien organisés à la mode de Bristol. Au début, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai rapidement appris l'origine et la signification de l'expression nautique « soigné et bien organisé à la mode de Bristol ». À une époque, Bristol était le deuxième port le plus actif du Royaume-Uni. Ses marées avaient un très grand marnage de 13 mètres, le deuxième plus grand au monde. À marée basse, lorsque l'eau se retirait, les vieux bateaux touchaient le fond et se couchaient sur le côté. Et s'ils n'étaient pas bien construits, ils étaient endommagés. En outre, tout ce qui n'était pas soigneusement rangé ou attaché était ballotté en tous sens et était abîmé ou endommagé. Une fois que j'ai compris la signification de cette expression, il était évident que ce dirigeant nous disait qu'en tant que missionnaire, nous devions être droits, suivre les règles et être préparés aux situations difficiles. Cette même exhortation s'applique à chacun de nous. Je dirais qu'être soigné et bien organisé à la mode de Bristol signifie être digne d'aller au temple dans les bons moments et dans les moments difficiles. On peut prévoir assez bien les variations de la marée dans le chenal de Bristol et s'y préparer, mais les tempêtes et les tentations de la vie sont souvent imprévisibles. Mais nous sommes sûrs d'une chose, elles viendront. Afin de surmonter les difficultés et les tentations que chacun de nous affrontera inévitablement, il nous faudra une préparation juste et nous devrons utiliser les protections que Dieu nous a fournies. Nous devons décider d'être dignes d'aller au temple quoi qu'il nous arrive. Si nous sommes préparés, nous ne craindrons pas. Le bonheur dans cette vie et le bonheur dans la vie à venir sont reliés par la justice. Même dans l'intervalle de temps entre la mort et la résurrection, les esprits de ceux qui sont justes sont reçus dans un état de bonheur qui est appelé paradis, un état de repos, un état de paix. Au début de son ministère terrestre en Israël, et plus tard parmi les Néphites, le Sauveur a parlé de la question du bonheur dans cette vie et dans l'éternité. Il a mis l'accent sur les ordonnances, mais il a aussi souligné l'importance d'avoir un comportement moral. Par exemple, les disciples seraient bénis s'ils avaient faim et soif de justice, étaient miséricordieux, avaient le cœur pur, procuraient la paix et suivaient d'autres principes moraux de base. Manifestement, comme message doctrinal fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ a mis l'accent sur les attitudes et les comportements justes au quotidien. Non seulement ces enseignements remplaçaient et dépassaient les éléments de la loi de Moïse, mais il rejetait aussi les philosophies fausses des hommes. Pendant de nombreux siècles, l'évangile de Jésus-Christ a inspiré des croyances et a établi des normes de conduite concernant ce qui est juste, désirable et moral, et qui engendre le bonheur, la félicité et la joie. Cependant, les principes et la moralité de base que le Sauveur a enseignés sont violemment attaqués dans le monde d'aujourd'hui. Le christianisme est attaqué. De nombreuses personnes croient que la moralité a simplement changé. Nous vivons en des temps difficiles. Il y a une tendance accrue à appeler le mal bien et le bien mal. Un monde qui met l'accent sur l'auto-glorification et la laïcité suscite une grande inquiétude. Un auteur connu qui n'est pas membre de l'Église l'a dit de cette manière. « Malheureusement, peu de choses m'indiquent que les gens sont en réalité plus heureux dans l'ère dans laquelle nous entrons, ou que leurs enfants se portent mieux, ou que la cause de la justice sociale est bien servie, ou que les chiffres du mariage en baissent, et les arbres généalogiques qui rétrécissent ne promettent rien de plus qu'une grande solitude pour la plupart et une stagnation générale. En tant que disciples du Sauveur, nous sommes censés planifier et nous préparer. Dans le plan de bonheur, le libre arbitre moral est un principe d'organisation central et nos choix ont de l'importance. Le Sauveur a souligné cela tout au long de son ministère, notamment dans les paraboles des vierges folles et des talents. Dans chacune, le Seigneur a loué la préparation et l'action et a condamné la temporisation et la paresse. Je reconnais que malgré le bonheur immense que procure le plan de Dieu, on peut parfois avoir l'impression qu'il est très éloigné ou déconnecté de notre situation actuelle. On peut avoir l'impression qu'il est hors d'atteinte de ses disciples en difficulté. De notre point de vue limité, les tentations et les distractions actuelles peuvent paraître séduisantes. D'un autre côté, les récompenses de résister aux tentations peuvent paraître éloignées et inaccessibles. Mais une véritable compréhension du plan du Père révèle que les récompenses de la justice sont accessibles dès maintenant. La méchanceté telle qu'une conduite immorale n'est jamais la réponse. Alma l'a clairement dit à son fils Corianton, « Voici, je te le dis, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. » Notre doctrine est énoncée clairement par Amulek dans Alma 34-32. Voici cette vie et le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Oui, voici le jour de cette vie et le jour où les hommes doivent accomplir leurs œuvres. Comment nous préparons-nous alors en des temps si difficiles? Outre le fait d'être digne d'aller au temple, il y a de nombreux principes qui concourent à la justice. J'en soulignerai trois. Premièrement, la maîtrise de soi et le comportement juste. Je crois que parfois notre Père Céleste aimant doit nous regarder avec le même amusement que nous éprouvons lorsque nous regardons nos petits-enfants apprendre et grandir. Nous trébuchons et tombons tous tandis que nous acquérons de l'expérience. J'aimais le discours que le président Uchtdorf a donné en 2010 sur la fameuse expérience des guimauves entreprises à l'université de Stanford dans les années 60. Vous vous souviendrez qu'on a donné une seule guimauve à des enfants de 4 ans. S'ils attendaient 15 à 20 minutes sans la manger, ils en recevraient une seconde. Des vidéos ont été produites montrant de nombreux enfants se contorsionner pour éviter de manger la guimauve. Certains n'ont pas réussi. L'année dernière, le professeur qui a initialement dirigé l'expérience, le docteur Walter Michel, a écrit un livre dans lequel il explique que l'étude a été réalisée en partie en raison de ses inquiétudes au sujet de la maîtrise de soi et de sa propre dépendance au tabac. Il était particulièrement inquiet après le rapport du directeur du service de santé publique des États-Unis en 1964 qui concluait que la cigarette provoquait le cancer des poumons. Après des années d'études, un de ses collègues a rapporté que la maîtrise de soi est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus elle se renforce. En évitant la tentation une fois, on acquiert la capacité de résister à d'autres tentations à l'avenir. Un principe de progression éternelle est que l'exercice de la maîtrise de soi et une vie juste renforce notre capacité de résister à la tentation. C'est vrai dans les choses spirituelles et dans les choses temporelles. Nos missionnaires en sont un excellent exemple. Ils acquièrent des vertus chrétiennes et mettent l'accent sur l'obéissance et la spiritualité. Ils sont censés suivre un emploi du temps rigoureux et passaient leur journée au service d'autrui. Ils ont une tenue vestimentaire classique et pudique, au lieu de vêtements indécents et désinvoltes qui sont si répandus aujourd'hui. Leur comportement et leur apparence transmettent un message sérieux et vertueux. Environ 230 000 de nos jeunes sont en mission actuellement ou sont rentrés de leur mission au cours des 5 dernières années. Ils ont acquis une force spirituelle et une maîtrise de soi remarquable qui doivent être exercées continuellement. Sinon, ces qualités s'atrophieront, tout comme des muscles qui ne sont pas utilisés. Chacun de nous doit adopter et illustrer une conduite et une apparence qui déclarent que nous sommes de vrais disciples du Christ. Ceux qui abandonnent une conduite juste ou une apparence saine et pudique s'exposent à des modes de vie qui n'apportent ni joie ni bonheur. L'Évangile rétabli nous donne les indications du plan du bonheur et une motivation pour comprendre et exercer la maîtrise de soi et éviter la tentation. Il nous enseigne aussi à nous repentir en cas de violation plus grave. Deuxièmement, le respect du jour de sabbat augmentera la justice et sera une protection pour la famille. L'Église chrétienne primitive a déplacé l'observance du jour de sabbat du samedi au dimanche pour commémorer la résurrection du Seigneur. Les autres buts sacrés fondamentaux du sabbat restent inchangés. Pour les Juifs et les chrétiens, le sabbat symbolise les œuvres puissantes de Dieu. Ma femme et moi, ainsi que deux de mes collègues et leurs femmes, avons récemment participé à un sabbat juif en réponse à l'invitation d'un très bon ami, Robert Abrams, et de sa femme, Diane, dans leur maison à New York. Cela a commencé au début du sabbat juif un vendredi soir. Le but était d'honorer Dieu, le Créateur. Nous avons commencé par une bénédiction sur la famille et un cantique du sabbat. Nous avons pris part au rituel du lavement des mains, à la bénédiction du pain, aux prières, au repas cachère, à la récitation d'écriture et au chant sur le sabbat dans un esprit de fête. Nous avons écouté les paroles en hébreu en suivant avec des traductions anglaises. Les écritures les plus touchantes que nous avons lues dans l'Ancien Testament et qui nous sont aussi chères provenaient d'Ésaïe qui déclare que le sabbat est un délice et d'Ézéchiel qui proclame que le sabbat sera entre le Seigneur et nous un signe auquel on connaîtra qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Au cours de cette soirée merveilleuse prédominait un sentiment d'amour familial, de dévouement et de responsabilité vis-à-vis de Dieu. En repensant à cette rencontre, j'ai réfléchi aux persécutions extrêmes que les Juifs ont subies pendant des siècles. Manifestement, le respect du sabbat a été une alliance perpétuelle, préservant et bénissant le peuple juif conformément à l'Écriture. Il a aussi contribué à la vie et aux bonheurs familiaux extraordinaires qui sont manifestes dans la vie de nombreux Juifs. Pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, le respect du jour du sabbat est une forme de justice qui bénira et fortifiera les familles, nous rapprochera de notre Créateur et augmentera notre bonheur. Le sabbat peut contribuer à nous séparer de ce qui est futile, inconvenant ou immoral. Il nous permet d'être dans le monde, mais pas du monde. Au cours des 6 derniers mois, il s'est produit un changement remarquable dans l'Église. Il s'est manifesté dans la réaction des membres à l'accent que la première présidence et le Collège des 12 apôtres ont remis sur le sabbat et à l'invitation du président Nelson de faire du sabbat un délice. De nombreux membres comprennent que la véritable sanctification du jour du sabbat est un refuge contre les tempêtes de cette vie. C'est aussi le signe de notre dévotion à notre Père Céleste et d'une compréhension accrue du caractère sacré de la réunion de Sainte-Seine. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous avons merveilleusement bien commencé. J'exhorte chacun à continuer à suivre ses conseils et à améliorer le culte du sabbat. Troisièmement, des protections divines nous sont offertes lorsque nous sommes justes. Dans le cadre du plan de Dieu, nous avons la bénédiction d'avoir le don du Saint-Esprit. Ce don est le droit d'avoir la compagnie constante du Saint-Esprit chaque fois que l'on est digne. Ce membre de la divinité remplit le rôle d'agent purificateur si l'Évangile a la première place dans notre vie. Il est aussi une voie d'avertissement contre le mal et une voie de protection contre le danger. Tandis que nous naviguons sur les mers de la vie, il est essentiel de suivre les murmures du Saint-Esprit. Il nous aidera à éviter les tentations et les dangers. Il nous réconfortera et nous guidera dans la difficulté. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. L'obéissance aux principes sacrés de l'Évangile nous permettra d'être dignes d'aller au Temple, de trouver le bonheur dans cette vie et de rentrer dans notre foyer céleste. Mes chers frères et sœurs, la vie n'est pas facile et elle n'était pas censée l'être. C'est un temps pour être testé et éprouvé. Comme les vieux bateaux du port de Bristol, il y aura des moments où la marée se rabasse et où nous aurons l'impression que tout ce qui nous maintient à flot dans ce monde disparaît. Nous pouvons toucher le fond et même basculer sur le côté. Au milieu de telles épreuves, je vous promets que si vous vivez de manière à être digne d'aller au Temple et le rester, tout ce qui compte réellement tiendra. Les douces bénédictions de la paix, du bonheur et de la joie, ainsi que les bénédictions de la vie éternelle et de la gloire céleste avec notre Père éternel et son Fils Jésus-Christ se réaliseront. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our dear and beloved.
Notre bon Père Céleste bien-aimé, nous t'aimons. Nous aimons ton Fils, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Nos cœurs sont remplis de joie grâce à cette très belle musique et grâce à ces paroles de sagesse et de rédemption que nous recevons avec un cœur plein de reconnaissance. Nous t'implorons, Père Céleste, que nous puissions appliquer ces paroles dans nos vies, devenir meilleurs, de meilleurs enfants pour toi. Nous te prions que nous puissions mieux partager l'évangile de ton Fils Jésus-Christ avec ceux que nous aimons. Nous prions pour ces choses humblement au nom de ton Fils, notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Vous venez d'assister à une session de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.